Les petits matins, Georges Pop.
Et c'est un nouveau jour qui se lève, lundi 16 juillet 2012. Nous vous souhaitons une bonne journée, une excellente semaine aussi. Tout à l'heure, le soleil sur le plateau va se lever aux alentours de 5h56. Il se couchera vers 21h21. Le ciel ce matin, il est bien dégagé. Les températures sont encore très fraîches, il est vrai. Cet après-midi, quelques petits cumulus vont bourgeonner sur les reliefs. Ils n'occasionneront aucune averse, sinon eh bien il fera beau. Température jusqu'à 21 degrés au nord des Alpes, 24 degrés en Valais. Ça se réchauffe progressivement. Belle journée, me dit-on, pour aller en montagne. L'actualité ce matin, des combats d'une violence sans précédent depuis le début de la crise syrienne ont éclaté hier en plein jour dans plusieurs quartiers du sud de Damas, la capitale syrienne, entre les forces de sécurité et des insurgés. Les affrontements qui impliqueraient des centaines de combattants se sont concentrés dans les faubourgs de Tadamon et Adjar al-Souad, à 3 kilomètres seulement au sud de la mosquée des Omeyyades. Ces combats se sont propagés à la nuit tombée un peu plus à l'ouest. On ignore le bilan de ces combats. Spontanément, ils se sont rassemblés hier soir par milliers dans les rues de Madrid, en Espagne. Des milliers de fonctionnaires se sont réunis à Madrid, répondant à des appels lancés sur les réseaux sociaux. Pompiers, policiers, autres fonctionnaires de toute profession, ils ont crié leur colère contre le plan de rigueur du gouvernement espagnol. On l'apprenait hier, l'an dernier en Suisse, 1700 des 7000 requérants d'asile devant être renvoyés au terme des accords de Dublin ont simplement disparu juste avant leur renvoi. Il s'agit de personnes qui devaient donc être renvoyées dans le pays où elles avaient déposé leur première demande d'asile. Une situation qui révolte le conseiller national zurichois UDC, Hans Fehr, on l'écoute.
Ça ridiculise toute la situation avec les requérants d'asile. À mon avis, il faut avoir plus de place de détention, n'est-ce pas? Afin qu'ils soient enfermés et qu'ils ne puissent pas s'enfuir avant. Alors, ça, c'est une position qui est urgente, plus de place de détention. La deuxième solution, si quelqu'un disparaît avant qu'il doit partir, il doit perdre son statut de réfugié. La chose la plus importante est faut réduire l'attractivité de la Suisse pour ceux qui ne sont pas de vrais réfugiés.
Un incendie vraisemblablement d'origine criminelle s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans un centre d'hébergement d'urgence pour requérants d'asile à Landquart, dans le canton des Grisons. Deux logements préfabriqués ont été entièrement détruits et 3 autres fortement endommagés. Personne n'a été blessé. Les structures d'accueil vaudoises des requérants d'asile sont débordées. L'établissement vaudois d'accueil des migrants, l'EVAM, n'a pas pu loger 23 demandeurs arrivés vendredi. Il a dû trouver dans l'urgence une solution provisoire dans le village de Golion, dans un abri de protection civile. La 41e édition du Festival de la Cité, qui s'est achevée hier dimanche à Lausanne, a enregistré une baisse de fréquentation due à la mauvaise météo. Les organisateurs ont recensé 105 000 visiteurs contre 120 000 l'an dernier. L'Espagnol Luis León Sánchez s'est imposé hier dimanche en solitaire à Foix dans la 14e étape du Tour de France, marqué dans le sprint final par d'innombrables crevaisons provoquées par de petits clous répandus sur la chaussée, apparemment un acte de malveillance. Sébastien Fournier et le FC Sion ont passé avec mention le premier test, victorieux 2-0 des Grasshoppers au Letzigrund sur un doublé du Brésilien Itaperuna. Les Sédinois ont comblé hier les attentes des supporters valaisans. Sepp Blatter a démenti dans la presse dominicale avoir été au courant de l'affaire de corruption qui touche son prédécesseur et président d'honneur de la FIFA, le Brésilien João Havelange, qui est aujourd'hui âgé de 96 ans. La question de la corruption est précisément inscrite à l'ordre du jour de la séance de demain, mardi, à Zurich, du comité exécutif de la FIFA. Pascal Bénard.
Les 24 membres du comité exécutif doivent plancher sur la composition et le mandat de la future commission d'éthique de la FIFA, dont la création avait été décidée par le congrès de la Fédération internationale de football en mai dernier à Budapest. La question est de savoir si le comité exécutif se penchera effectivement sur cet objet crucial ou le renverra à une séance ultérieure, comme il a su si longtemps le faire avec le contrôle vidéo de la ligne de but. Des observateurs estiment que Sepp Blatter, qui ne semble pas impliqué lui-même dans les affaires de pot de vin, a intérêt à amorcer le mécanisme anticorruption, ne serait-ce que pour laisser une trace indélébile de son règne à la tête de l'institution. Mais tous les membres du comité exécutif ne sont pas forcément pressés de voir aboutir les réformes. Certains d'entre eux préféreraient voir un certain Michel Platini, successeur pressenti de Sepp Blatter dans 3 ans, diriger la manœuvre.
C'est l'Espagne qui a remporté hier soir l'Euro 2012 des moins de 19 ans de football. L'Espagne qui a battu la Grèce 1-0. À la mi-temps, c'était 0-0. Et c'était en finale, donc, hier soir à Tallinn, en Estonie. 5h05, tout rond. On va passer à Sport Matin. Et il est question de cyclisme ce matin dans Sport Matin. Le cyclisme qui vit une nouvelle révolution technologique. Depuis 2 ans, l'électronique a fait son apparition sur les vélos de course. Autrefois entièrement mécanique, le changement de vitesse se fait désormais par compulsion électrique. Sur les 22 équipes au départ du Tour de France cette année, certaines en sont dotées, d'autres pas. Les explications de Romain Rosang, notre envoyé spécial.
3 marques, japonaises, italiennes et américaines, se partagent actuellement le marché des systèmes de transmission sur vélo de course. Les 2 plus anciennes proposent désormais un changement de vitesse électrique, alors que la dernière est pour l'instant restée fidèle aux mécaniques. Le changement est radical. À la place de pousser la poignée de frein pour monter ou descendre les vitesses, il suffit dorénavant d'appuyer sur un simple bouton. Pour Sylvain Rochat, vendeur de cycles à Aubonne dans le canton de Vaud, il s'agit d'un réel progrès.
C'est clairement un avantage. Le premier, il est au niveau du confort d'utilisation. Une simple pression sur un bouton électrique donne l'impulsion pour changer de vitesse. Le deuxième avantage fait que les vitesses ne se dérèglent plus, puisque les vitesses qui se dérèglent sont causées par un allongement du câble ou de la gaine qui provoque le dérèglement des vitesses. Si on est bien réglé, on déraille plus. Maintenant, comme toute technologie, ça demande un bon réglage initial pour que le système fonctionne parfaitement.
Le coureur français Jean-Marc Marino de l'équipe Source-Jasson a passé au système électrique il y a 2 semaines au départ du Tour de France et il n'a pas tardé à l'adopter.
Il y a juste un petit doigté à faire, alors qu'avec le mécanique, avec les câbles, en fait, faut vraiment pousser plus fort. Et par exemple, quand il pleut et qu'il fait vraiment très froid, avec l'électrique, on fait qu'appuyer et ça va. Alors qu'avec le mécanique, des fois, on n'arrive plus à changer de vitesse tellement on a les doigts tétanisés, quoi. Le premier jour, il y a eu un défaut de réglage et puis les mécanos l'ont réglé. Et puis même pour eux, je pense que c'est beaucoup plus simple à régler que du mécanique, en fait. Et le plaisir de l'utilisation qui est vraiment agréable, en fait.
La formation AG2R, engagée également sur le Tour de France, fait partie des équipes qui roulent encore avec un changement de vitesse mécanique. Un petit handicap, selon l'un de ses mécaniciens, Johan Le Foulgoc.
Le mécanique marche, fonctionne très très bien, mais après l'électrique, c'est encore plus rapide à passer les vitesses. Donc ça, c'est un avantage en une relance ou une chose comme ça, ça va plus vite, quoi. Je pense qu'on peut gagner du temps, surtout dans les contrôles à montre, un peu où il y a des bosses, on peut gagner du temps avec l'électrique, oui. Bon, pas beaucoup, mais on sait que maintenant, ça se joue à pas grand-chose, le temps, donc ça peut être important, oui.
Et pourtant, le changement de vitesse électrique ne date pas d'hier. L'ancien coureur, Richard Chasseau, aujourd'hui directeur du Tour de Romandie et consultant RTS, a connu les premiers prototypes.
Oui, moi je l'ai testé il y a déjà 10 ans, hein. Les premiers constructeurs les amenaient, on avait quelques pannes pour finir avec l'eau, c'était pas toujours super étanche, on les a enlevés. C'est un changement de vitesse qui est un peu plus direct, néanmoins franchement ça change pas l'efficacité du coureur à mon avis. On n'a pas trouvé, à part pour moi les roues carbone, les cadres carbone là qui changent vraiment le kilométrage, l'efficacité, on est plus vite à mon avis avec le même effort. Le changement de vitesse ou le freinage ou ces choses là, pour moi on n'a rien amené qui améliore véritablement la performance.
Il n'empêche que le changement de vitesse électrique semble faire l'unanimité au sein du peloton. Dans un avenir proche, tous les coureurs professionnels en seront dotés. Et comme à chaque évolution technologique, les amateurs devraient suivre.
Cinq heures et 9 minutes, ce sont les petits matins sur la première. Merci de nous accompagner dans cette exploration de la biodiversité du tissu humain helvétique. Après 3 ans de travaux à l'école pour enfants aveugles de Boulsa au Burkina Faso, les salles de classe, le puits et les sanitaires sont désormais en place. Il s'agit maintenant de pérenniser l'activité de l'école de Boulsa en lui assurant pendant une période transitoire de 2 ans les ressources indispensables à son fonctionnement. Parallèlement, cette période sera mise à profit pour créer des structures susceptibles de générer des fonds qui permettront à l'école de voler de ses propres ailes. Une ferme avicole productive avec des ventes d'œufs et de poulets, un moulin à grains et la création d'un gîte. Voilà, ces lignes sont de la main, de la plume de Jean-Marc Méra. Bonjour Jean-Marc Méra.
Bonjour Monsieur Pop.
Jean-Marc Méra, vous êtes président de l'association ABCD pour l'alphabétisation. Je vais recommencer. L'alphabétisation des enfants aveugles du Burkina Faso. Jean-Marc Méra, vous êtes vous-même aveugle. Vous m'avez dit, je déteste qu'on dise non-voyant. Hein, vous n'aimez pas ça, il faut dire aveugle.
Alors, il ne faut pas dire aveugle. C'est ma manière de voir les choses. Moi, j'aime bien appeler un chat un chat. Pour moi, non-voyant, ça sent un peu le politiquement correct. Je suis pas très politiquement correct.
Alors, on en prend bonne note, Jean-Marc Mérat, président de l'association ABCD. Pourquoi ABCD ?
Alors, ABCD, parce que c'est l'acronyme d'alphabétisation braille, conseil et développement. Car nous essayons, au-delà de l'aide classique, de faire une prise en charge globale du sort de ces enfants, c'est-à-dire autant au niveau de la prévention que de l'hygiène. Et nous faisons aussi tout un travail de formation par rapport aux enseignants spécialisés de l'école de Boulsa, qui se trouve dans le Namentenga, dans le nord-est du Burkina Faso. C'est une des provinces les plus pauvres de ce pays. Et cette petite école est très chère à mon cœur.
J'imagine, d'autant qu'elle porte votre nom, ai-je vu.
Ah oui, puis j'ai mon portrait dans chaque classe, entouré d'un cadre doré, absolument, oui, tout à fait à l'africaine. J'en tire aucune fierté, mais beaucoup de plaisir, et je sais que ça vient du cœur de la part de ces gens pour qui c'est important de mettre un nom sur les choses qui ont été réalisées, mais à travers moi, c'est tous les donateurs qui nous ont aidés, c'est tous les membres de mon comité, tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin.
Jean-Marc Mérat, vous êtes né en avril 1959 à La Chaux-de-Fonds et vous êtes aveugle depuis l'âge de 8 ans.
Oui, j'ai perdu la vue suite à un glaucome infantile. Donc je suis entré à l'asile des aveugles à l'âge de 6 ans. Mon passage au monde des aveugles s'est fait très progressivement. Je ne pourrais pas vous dire la date exacte de mon passage dans ce monde-là. Et voilà, j'ai fait ma scolarité à Lausanne, puis quelques études à Lausanne et à Genève.
Alors, le monde des voyants dont je suis, imagine sans doute, de votre point de vue, avec passablement de naïveté, ce que peut être le monde des aveugles. Vous avez encore le souvenir de la vue, de la lumière ?
Alors moi, j'ai encore le souvenir des couleurs, mais ça devient un petit peu des connaissances livresques, je dois reconnaître. Parce que pendant des années, j'ai encore rêvé en couleurs. Mais maintenant, je vais un petit peu à l'encontre de la technologie, je rêve de nouveau en noir et blanc parce que mon cerveau a gentiment oublié ou perdu ses repères. Mais je suis parfaitement conscient, du moins je crois, de ce que c'est le rouge ou le bleu ou le vert. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il faut tordre le cou à un tabou bien répandu, comme tous les tabous, un aveugle ne voit pas noir, il ne voit rien.
Ça, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile,
pas facile,
à imaginer.
Hein.
Non, vous voyez, j'ai même marqué un temps d'arrêt. C'est quelque chose qui est très difficile à imaginer. Jean-Marc Mérat, aveugle depuis l'âge de 8 ans, vous avez tout de même obtenu, quand je dis tout de même, là encore, il y a une forme de naïveté de ma part, un diplôme de gestion à l'École supérieure de commerce de Lausanne. Je dis tout de même, car peut-être à l'époque, lorsque vous avez fait ces études, il y avait moins de moyens et moins de moyens technique pour faciliter le travail et l'étude des aveugles.
Il y avait beaucoup moins de moyens techniques, surtout l'informatique individuelle n'existait pour ainsi dire pas. Mais ce n'était pas la période de ma vie la plus facile. J'ai eu un passage un peu chaotique à l'école de com. Mais après, j'ai pu me rattraper en faisant ce qui me faisait vraiment plaisir. Une matu latin-anglais, puis après une licence de russe, puisque le russe, c'est quand même une langue qui m'est très proche du point de vue de la culture, de la sonorité. Et c'est un pays qui m'a toujours accompagné et fasciné tout au long de ma vie et encore maintenant, malgré mes activités bénévoles dans les pays en voie de développement. Mais j'ai pu me faire plaisir et grâce surtout à l'informatique, c'est clair, qui a changé notre vie, qui nous a donné la possibilité de faire des études, d'exercer une profession, d'avoir une vie sociale, puisque l'informatique est un outil social aussi. Moi, je peux gérer mon blog de manière autonome maintenant, ce qui était impossible à imaginer il y a encore peut-être une dizaine d'années.
Pourquoi cette fascination de la langue et de la culture russe ?
Ouf, c'est une longue histoire. C'est un film absolument ringard que j'avais vu avec mon papa tout petit qui s'appelait La Polonaise, un film de guerre assez ringard. Et j'étais tombé amoureux du son des langues slaves et du tchèque en particulier. Et comme le tchèque n'était pas enseigné en Suisse romande, j'ai opté pour le russe. Et je ne l'ai pas regretté, c'est une langue qui m'a apporté beaucoup, un pays qui m'a apporté énormément. Et je reste toujours fasciné par cet immense pays qui est tout près de chez nous. On disait à l'époque que les chars russes étaient à 3 heures de Zurich. C'était ces vieilles expressions de la guerre froide. Mais c'est un pays que je suis toujours son actualité avec beaucoup, beaucoup d'intérêt.
Vous aimez le voyage, hein. Là encore, beaucoup de naïveté de ma part. On a du mal à imaginer précisément le plaisir que peut retirer un aveugle du voyage. Et pourtant, j'en connais passablement qui aiment le voyage.
Oh oui, on aime le voyage parce qu'il y a des différentes manières de voyager. Ça peut être gustatif, c'est les odeurs, c'est les bruits, c'est surtout les rencontres. Donc d'où l'importance de dominer quelques langues étrangères, parce que sinon on est un peu mal. Et je crois qu'une chose que je fais toujours, où que je sois dans le monde, c'est avoir une radio dans la poche, parce qu'il n'y a pas mieux pour sonder l'âme d'un pays, ou même la censure d'un pays, en écoutant sa radio, en écoutant entre les mots, parce que c'est souvent là qu'on trouve la vérité.
Il y a passablement, je crois, d'aveugles qui nous écoutent, hein, ici à la Radio Suisse Romande, enfin à la RTS, soyons précis, et à jour. Vous êtes aussi un auditeur des petits matins, je crois, de temps en temps.
Ah, je suis un grand auditeur de radio, mais je dois avouer quelques infidélités avec vos collègues français. mais j'écoute, j'ai redécouvert le monde dans mon chalet à Trogne, en Valais. Je profite de saluer les heureux habitants de Saint-Martin. J'ai une radio internet, c'est le voyage tous les jours. Tous les jours.
Jean-Marc Mera, président de l'association ABCD pour l'alphabétisation des enfants aveugles du Burkina Faso. On va en parler plus longuement tout à l'heure. Là, il est 5h16, à l'écoute de la première. Voilà, Circus sur un fil est le titre de ce morceau.
Les petits matins.
À 5h19, décalage horaire. Et nous sommes ce matin en décalage horaire avec la Corée du Sud. Bonjour Séoul, bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Georges.
Alors Frédéric Ojardias, vous venez de visiter un musée unique en son genre. C'est, me dites-vous, la plus grande maison du monde en forme de toilettes. Et bien sûr, ce musée est dédié aux toilettes. Alors, tout cela nécessite tout de même une explication, Frédérico Jardias. Qui habite dans une maison en forme de toilette ?
Eh bien, c'est pas une blague, c'est Monsieur Toilette qui habite dans cette maison. C'est un monsieur qui a vraiment existé. Son vrai nom est Shin Jae-dok. Il a même été le maire de Suwon, qui est une grande ville située au sud de Séoul. C'est là que se trouve le siège du conglomérat Samsung, se dit entre parenthèses. Shin Jae-dok est né en fait par accident dans des latrines et toute sa vie, il s'est battu pour des toilettes plus propres, plus hygiéniques et aussi plus conviviales. Il a lancé un grand mouvement en Corée pour sensibiliser la population, organisant des concours de toilettes propres, et il n'a pas hésité à payer de sa personne, parce que pour sa propre maison, eh bien, il a fait construire un grand bâtiment blanc qui est vraiment à la forme d'une cuvette de WC. Et le petit coin là-bas, eh bien, il n'est pas dans un coin, il était posé en plein centre de la maison et assis sur ses toilettes, on peut même voir le jardin. C'est ainsi que Monsieur Toilette a gagné ce surnom pour le moins coloré. Et puis à sa mort, il y a 3 ans, sa veuve a décidé de transformer sa maison en un musée consacré bien sûr aux toilettes.
Voilà qui est original. Que peut-on voir, Frédérico Jardias, dans ce musée de Monsieur Toilette ?
Eh bien, on est accueilli par tout un historique de l'évolution des toilettes en Corée, des latrines peu avenantes des années 50 aux WC étincelants que les visiteurs étrangers découvrent dans la Corée d'aujourd'hui. Le musée montre aussi des urinoirs amusants, ainsi que à destination des enfants, ouvrez les guillemets et toutes mes excuses aux auditeurs qui se réveillent, des choses amusantes à savoir sur le caca, par exemple comment interpréter un rêve où apparaissent des excréments. Et à côté du musée a été inauguré début juillet, donc c'est tout neuf, un parc tout nouveau, lui aussi bien sûr dédié aux toilettes. On peut y admirer des vieilles toilettes, de la Rome antique à la Corée du Moyen-Âge. Alors c'est en fait très déroutant parce que ce parc est parsemé de sculptures d'un mauvais goût effroyable. On y voit des sculptures en forme d'étron ou des sculptures en bronze bien sûr, de personnages accroupis en pleine action ou encore de grandes fresques murales qui représentent des postérieurs.
Oui, j'ose à peine imaginer, mais pourquoi ? Quel intérêt en définitive ?
En fait, le premier intérêt, c'est d'amuser tout simplement. Il me semble qu'en Corée, les toilettes et les fonctions digestives sont beaucoup, beaucoup moins tabous qu'en Europe. C'est un sujet facile de rigolade. Par exemple, un célèbre livre pour enfants raconte l'histoire d'un tigre qui pète dans une flûte. Et à Séoul, il existe même une chaîne de boulangerie qui vend des gâteaux en forme de petits étrons. Cette chaîne s'appelle Dongbam, c'est-à-dire gâteau caca, et son logo est très explicite, on ne peut pas se tromper. Et ce musée toilette donc cherche lui aussi à surprendre et à amuser, mais dans le but de mieux faire passer son message, qui est la propreté des toilettes, c'est très important, car cela permet de réduire les maladies causées par une mauvaise hygiène. Le musée reçoit par exemple des visites des écoles voisines, et le fondateur a créé une ONG appelée l'Association mondiale des toilettes. Son objectif est, ouvrez encore les guillemets, l'internationalisation du mouvement culturel des toilettes. Alors cela semble un peu pompeux, mais son objectif est en fait très louable, puisque l'association construit des latrines propres dans de nombreux pays en voie de développement. Et c'est vrai que le combat de Monsieur Toilette a payé, en Corée du Sud tout du moins, où les toilettes publiques sont sans doute parmi les plus propres du monde, ce qui est toujours agréable pour les touristes.
Alors, en guise de conclusion, Frédérico Jardias, vous avez fait allusion tout à l'heure au rêve où l'on voit apparaître des excréments. Que signifie un rêve où apparaissent des excréments en Corée du Sud ?
Alors j'ai appris grâce à ce musée qu'en Corée, rêver d'excréments est considéré comme auspicieux. Si par exemple en songe, vous tombez dans vos propres déjections, et bien sachez que cela signifie qu'une bonne chose va vous arriver. Et si vous rêvez de montagnes d'étrons, et bien cela veut dire que vous allez devenir riche. Bon réveil à tous.
Voilà, bah figurez-vous qu'on fait la même interprétation ici. Vous voyez comme quoi là, il y a quand même des interprétations universelles. Bah, je vous souhaite de rêver de la chose au plus tôt, Frédérico Jardias. Bon, pour le moment, il est encore... c'est pas l'heure de dormir en Corée du Sud. Je crois qu'il est passé midi, quelque chose comme ça. Ou pas tout à fait.
Midi,
voilà, on vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Chaque jour, les évadés vous emmènent dans un coin de ville ou de campagne en compagnie d'un personnage qui nous parle de nature, d'évasion, d'environnement. Les évadés à 15h sur la première, une série de balades estivales avec des hommes et des femmes qui entretiennent un rapport passionnel avec la nature.
Voilà, nous sommes avec Jean-Marc Mera, président de l'association ABCD pour l'alphabétisation des enfants aveugles du Burkina Faso. C'est pas constipant, hein, décalage horaire, hein, vous le constatez, Jean-Marc
Mera. Non, c'est très intéressant. Non, mais les latrines, quelque part, c'est un signe très important. Nous, le fait d'avoir pu poser des latrines dans l'école de Boulsa est une étape fondamentale. Car dès l'instant où, quelque part, on peut dominer ce problème, on peut directement entrevoir des mesures de prévention et d'hygiène. C'est très, très, très important. Et je crois que les toilettes sont tout à fait à l'image même de la société dans laquelle on vit et de nos tabous, de nos complexes, de nos non-dits. C'est intéressant.
L'école de Boulsa au Burkina Faso, dont vous êtes précisément le fondateur, l'école de Boulsa pour l'alphabétisation des enfants aveugles du Burkina Faso. Vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Marc Mera, de votre fascination, de votre amour pour la langue et la culture russe, et pour toutes les langues et les cultures slaves notamment. Comment se fait-il que vous ayez débarqué une fois au Burkina Faso? Comment avez-vous découvert ce pays?
Alors, c'est complètement par hasard. C'est un jour, lors d'une séance de la commission romande du Braille, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui est devenu mon ami, Heinz Rotacher, qui est secrétaire général de la mission évangélique Braille. Et on parlait comme ça, puis il me dit « Ah, dans 3 semaines, je pars au Burkina Faso. » Puis je dis « Écoute, je m'ennuie un petit peu ces temps. Est-ce que tu pourrais me prendre avec ?» Puis il me dit « Écoute, les conditions sont pas forcément faciles, mais volontiers. » Et voilà, on est parti et je suis vraiment tombé un petit peu en amour pour ce pays. Et je lui ai posé la question à la fin de notre séjour « Est-ce que tu me confierais éventuellement le soin de cette école ?» Ce qu'il a fait très volontiers. Et grâce à lui, on a pu monter tout ce projet pour non pas seulement fonder l'école, mais surtout la développer. Et c'est une grande marque de confiance de Heinz de m'avoir donné la possibilité de soutenir cette école.
Oui, une forme de motivation aussi. C'est quelque chose d'extraordinairement motivant pour un homme comme vous, qui a besoin aussi d'action.
Moi, j'ai besoin d'action. Puis surtout, je peux pas rester insensible au sort de ces enfants aveugles. Car s'ils ne sont pas alphabétisés, ils vont finir mendiant au bord de la route. Et ça, pour moi, c'est une chose que je ne peux pas tolérer. Et dans la mesure de mes moyens, qui sont limités, si on peut déjà donner à 50 enfants la possibilité de savoir lire et écrire et compter, si sur ces 50, un ou deux font des études plus tard, ben tant mieux. Mais au moins pour ces 48 autres, leur donner des rudiments d'intégration professionnelle par des métiers traditionnels comme le maraîchage, comme l'élevage du petit bétail et compagnie, et que ces enfants, de retour dans leur village, aient une dignité et ne soient pas considérés comme des simples bouches inutiles à nourrir, ce qui est souvent malheureusement le cas.
Jean-Marc Mera, une longue expérience tout de même, hein. Vous avez assuré la direction de la bibliothèque sonore romande à Lausanne, et actuellement, je crois savoir que vous êtes toujours responsable à temps plein de l'antenne romande de la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants.
Absolument. Donc, grâce à ces différents emplois, j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience, mettre sur pied des réseaux qui sont assez solides. Mais là, bien sûr, cette activité est tout à fait bénévole à côté de mon emploi.
Mmh. Est-ce que dans le milieu des aveugles, hein, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous n'aimez pas, enfin vous personnellement, en tout cas le terme de malvoyant, on m'avait dit il faut dire aveugle, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc, dans le monde des aveugles, vous avez trouvé de la solidarité pour votre projet au Burkina Faso?
Oui, absolument. Non, c'est un très joli projet et il est d'autant plus joli qu'il est petit, qu'on peut bien le suivre. Moi, j'envoie des bulletins d'information très réguliers. Non, j'ai eu un très très bon écho dans le milieu des aveugles. La Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants a également soutenu financièrement ce projet. Non, il y a un excellent écho.
Et donc, vous avez créé votre association il y a à peine quoi, 3-4 mois, hein, cette association.
C'était dans le bistrot L'Assiette Gourmande à Lausanne, que je salue, le 8 février 2012, donc avec mon comité qui est composé de Heinz Rotacher, donc secrétaire général de la mission évangélique Braille, un homme de terrain, un homme qui a roulé sa bosse dans toute l'Afrique de l'Ouest, Michel Bondy qui est ancien assistant social de la ville de Genève, un redoutable caissier, et mon épouse, ma femme Francine, qui... Il nous a ouvert les yeux à Heinz et à moi sur justement toute la problématique de l'hygiène et du soutien aux enfants handicapés au Burkina Faso. Puis moi, ben voilà.
Alors, ce projet est en marche depuis quelques années déjà. Pourquoi avoir créé une association il y a quelques mois seulement?
Alors écoutez, je voulais un petit peu me départir de l'aspect évangélique de notre projet de base. Pas du tout par défiance, mais je ne suis pas un grand pratiquant de la chose. Et je dois dire que j'ai découvert dans cette mission évangélique des amis vraiment très proches, qui sont vraiment des travailleurs. Et je veux dire, sans la religion, aucun aveugle serait scolarisé au Burkina Faso. Il n'y a qu'une seule structure qui est laïque. Tout le reste, c'est ou la religion catholique ou la religion protestante. Qu'on le veuille ou non, l'Église est incontournable. Mais, tout à fait en accord avec Heinz, nous avons créé cette association pour, disons, avoir une laïcité, quoi.
Jean-Marc Méra, président de l'association ABCD pour l'alphabétisation des enfants aveugles du Burkina Faso. On vous retrouve après le journal. Là, il est 5h30. Sandra Viscardi nous a rejoint pour les informations sur la première.
Des clous sur la route quand on sait que les coureurs roulent à près de 90 km/h à la descente. La direction du Tour de France porte plainte contre X. Elle veut savoir qui a jeté ces clous sur la route à 40 km de l'arrivée, près du sommet du mur de Péguerre lors de la 14e étape. Des clous qui ont provoqué plusieurs crevaisons, dont celle du vainqueur 2011, Cadel Evans. Le leader de l'équipe BMC est tout de même parvenu à rentrer dans le peloton. Mais à l'arrivée, son directeur sportif John Lelang n'a pas caché sa stupéfaction.
Beaucoup de colère, énormément, parce que je trouve que c'est criminel. Je pense que les coureurs prennent déjà assez de risques dans une course cycliste, notamment dans la descente où on est à la limite, où on est à 70-80 km/h. Les chutes qui ont pu arriver aujourd'hui dans la descente, les chutes qui auraient pu arriver. Non, je trouve que le Tour de France, c'est une fête, c'est un spectacle public où le public a accès. Et ça, je trouve que c'est du hooliganisme et c'est criminel. On a essayé de rester calme, de reprendre le groupe. On savait qu'on avait un bon groupe. On a vu que ça roulait devant, que certains préféraient ne pas respecter la règle. Et on n'a pas paniqué. On savait qu'on avait 5 coureurs qui étaient prêts à faire un contre-la-montre par équipe. Comme il n'y en avait pas ce Tour de France-ci, ben voilà, on en a fait un. Et on s'en sort bien.
John Lelang avec Romain Rosang. Hier, l'Espagnol Luis León Sánchez s'est imposé à Foix. Bradley Wiggins est toujours en jaune. Aujourd'hui, pour la 15e étape, le peloton rallie Pau au départ de Saint-Maton. Football, le FC Sion n'a pas manqué son entrée dans le championnat de Super League en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Grasshoppers. Match nul, un partout entre Lucerne et Zurich et entre Saint-Gall et Young Boys. En Challenge League, Bellinzon bat bien 2-1 et match nul 0 partout entre Vaduz et Chiasso. En athlétisme, Naomi Zberen est vice-championne du monde junior du 100 mètres haies. Titre glané hier à Barcelone. La Bernoise de 18 ans est la quatrième athlète suisse de l'histoire à remporter une médaille à ce niveau après Anita Weyermann, André Bucher et Sabrina Altermat déjà sur les haies. Kofi Annan sera à Moscou ce matin pour 2 jours. L'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe que l'opposition syrienne qualifie de valet d'Assad et de l'Iran, qui est allié à Damas. Eh bien, Kofi Annan doit donc rencontrer le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, mais aussi le président Poutine pour redonner un élan diplomatique à son plan de paix qui n'a jamais eu d'effet sur le terrain. À Moscou, Xenia Bolshakova.
Une semaine après la visite peu concluante des représentants de l'opposition syrienne, c'est au tour de Kofi Annan de venir frapper à la porte du Kremlin. Objectif, sauver ce qui peut encore l'être de son plan de paix. En somme, demander à Vladimir Poutine de faire pression un peu plus sur Bachar al-Assad, le président syrien qui n'a pas du tout respecté les injonctions de cesser le feu. De son côté, le médiateur de l'ONU devrait promettre de multiplier les contacts avec l'opposition, des contacts considérés comme insatisfaisants par Moscou. Pour le reste, aucun détail n'a filtré sur le contenu des discussions. Plusieurs points devront néanmoins être absolument abordés. D'abord, la question de la prolongation du mandat de la mission de l'ONU en Syrie souhaitée par la Russie. La question des sanctions que Moscou refuse toujours d'envisager. Mais surtout, celle de cette fameuse transition politique dont les diplomates parlent depuis des mois, mais à laquelle plus personne ne semble vraiment croire. Xenia Bolshakova, RTS Info, Moscou.
Sur le terrain, des combats d'une rare violence se déroulent dans la banlieue de Damas. L'armée a coupé la route de l'aéroport et encercle des centaines d'opposants. C'est ce qu'affirment ces derniers sans qu'il soit possible de vérifier cette information de sources indépendantes. Quant à l'Iran, allié de Damas, elle se dit prête à accueillir sur son sol des discussions entre le régime syrien et ses opposants. Elle est attendue aujourd'hui en Israël. Hillary Clinton a essuyé hier des tirs de chaussures et de tomates à Alexandrie. La secrétaire d'État américaine a rencontré le président égyptien Mohamed Morsi et le chef de l'armée, le général Tantawi. Une rencontre alors que Human Rights Watch invite le président égyptien à interdire aux tribunaux militaires de juger des civils conformément au droit international. Depuis le soulèvement de l'année passée, pas moins de 12 000 civils auraient passé devant de telles cours. C'est bien plus que pendant les 30 ans du règne d'Hosni Moubarak. En Suisse, Prévrange ne peut plus s'opposer à la réquisition de son abri PC par le canton pour y loger des requérants d'asile. Verdict du tribunal fédéral, ont révélé hier soir nos collègues de la télévision. La commune du bord du lac devra donc accueillir une cinquantaine de requérants d'asile dans son abri sous un complexe scolaire. Pour le conseiller d'État Philippe Lebas, en charge de ce dossier, le canton de Vaud peut contraindre certaines communes à accepter des requérants, notamment en réquisitionnant des bâtiments communaux.
Bien sûr, nous l'avons fait. Nous préférons très largement la discussion avec les autorités communales afin de mettre en place les règles régissant l'ouverture à la gestion d'un abri de protection civile. Mais lorsque les communes refusent, nous avons les moyens légaux de réquisitionner. Nous venons de le faire à Prévrange. La commune s'est opposée jusqu'au tribunal fédéral. Elle vient d'être déboutée la semaine dernière. Parce qu'il faut bien voir que le canton se voit attribuer, sans naturellement avoir rien demandé à la Confédération, un pourcentage des requérants d'asile entrant en Suisse, et que le canton n'a pas de structure propre en dehors des territoires communaux. Et par voie de conséquence, si les communes refusent de participer à cet effort collectif, à cette solidarité confédérale, en répartissant équitablement les requérants d'asile sur leur territoire, eh bien nous n'avons pas d'autre moyen que de réquisitionner des abris de protection civile qui appartiennent généralement aux communes.
Philippe Lebas avec Christine Matté. Et lorsque les demandes d'asile échouent, les requérants se fondent souvent dans la nature avant d'être expulsés. L'an dernier, l'Office fédéral des migrations a estimé à 1700 le nombre d'entre eux qui ont disparu. L'ODM ne parvient pas à savoir combien entrent dans la clandestinité et combien quittent la Suisse.
C'était le journal de Sandra Viscardi. Tout de suite, la météo avec Stéphanie Koller.
Le ciel est bien dégagé ce matin et les températures très fraîches. Quelques résidus nuageux sont visibles dans un ciel qui deviendra rapidement bleu. Il se trouve principalement le long des Préalpes et du Jura. Cet après-midi, quelques petits cumulus bourgeonneront sur le relief. Ils n'occasionneront aucune averse. Température jusqu'à 21 au nord des Alpes et 24 en Valais. Belle journée pour aller en montagne. Le 0 degré remontera vers 3200 mètres et le vent d'ouest, fort hier, ne soufflera plus que faiblement. Demain, le temps sera ensoleillé et plus chaud, 24 à 27. Mercredi, l'été revient, ciel d'azur et des températures comprises entre 27 et 30 degrés. Jeudi, une matinée bien ensoleillée sera suivie d'averses, voire d'orages, avec par moments de fortes rafales de sud-ouest.
Il est 5h37 à l'écoute de la première, les petits matins. Nous sommes avec Jean-Marc Mera, il est président de l'association ABCD pour l'alphabétisation des enfants aveugles du Burkina Faso.
Les petits matins, Georges Pop.
Jean-Marc Mera, né en 1959 à La Chaux-de-Fonds, aveugle depuis l'âge de 8 ans. Il a assuré la direction de la bibliothèque sonore romande à Lausanne. Il est actuellement responsable à temps plein de l'antenne romande de la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants. Jean-Marc Mera, vous écrivez sur le site internet de l'association ABCD pour l'alphabétisation des enfants aveugles du Burkina Faso, qu'après 3 ans de travaux à l'école pour enfants aveugles qui se trouve à Boulsa, les salles de classe, le puits et les sanitaires sont en place. Il s'agit maintenant de pérenniser l'activité de cette école. Donc il y a encore du pain sur la planche.
Il y a toujours du pain sur la planche. Mais bon, on a fait, je dirais, le gros œuvre, si vous me passez l'expression. Maintenant, il faut surtout œuvrer sur l'amélioration du quotidien de ces enfants, travailler sur l'hygiène, la prévention et surtout sur la formation des enseignants. Il faut aussi apporter du matériel didactique, comme par exemple, nous avons transcrit en braille le livre « Lire au Burkina Faso » première année. C'est un énorme boulot fait par des bénévoles ici en Suisse, dont la sœur de ma femme, Christine Fayet-Berthoud. Et aussi l'appui de l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants de Genève, qui m'a beaucoup aidé à transcrire ce livre. Donc maintenant, on fait un petit peu dans le travail plus fin, si vous me passez l'expression, avant peut-être de se lancer sur un autre projet à fin 2013 au Burkina Faso ou ailleurs.
Alors, il s'agit, avez-vous dit, de pérenniser cette école et aussi de la rendre autonome financièrement. Donc ça aussi, c'est un gros travail. Il y a des choses en cours, assez enthousiasmantes.
Alors je crois que dans ce type de démarche, il faut avoir des objectifs et dans la quantité, dans la qualité et aussi dans le temps. Je pense que les Burkinabés sont des gens tout à fait à même de concevoir très bien ce type de démarche. Et c'est la raison pour laquelle on s'était fixé tout d'abord 2012 pour mettre un terme, entre guillemets, à ce soutien financier de l'école de Boulsa, par le biais de parrainage ou autre, ben on a dû se rendre à l'évidence que 2012 c'était prématuré. Donc on a repoussé cette échéance à 2013, parce qu'il ne faut pas non plus être dogmatique, mais il est important, je crois, d'avoir des objectifs et surtout d'éviter l'assistanat qui est vraiment négatif pour tout le monde, autant pour ceux qui reçoivent que pour ceux qui donnent. On crée une forme de prise d'otage, et c'est pas du tout le but. Mais évidemment, on peut pas non plus se désengager de manière brutale, et c'est pour ça que 2012 et 2013 seront des années pour mettre en place ces activités génératrices de revenus, pour que nous partions dans de bonnes conditions et que l'école puisse vraiment voler de ses propres ailes.
J'ai lu sur votre blog, avant que ce soit sur le site internet de votre association. Tiens, rappelez-nous au passage, pour ceux qui nous ont rejoints depuis 5h30, pourquoi l'association s'appelle-t-elle ABCD ?
Alors, c'est l'acronyme d'alphabétisation braille, conseil et développement.
Voilà, c'est vous qui avez choisi le nom de cette association ?
Ah ben vous poserez la question à notre invité tout à l'heure, je crois qu'il y a participé.
D'accord.
D'une certaine mesure.
Je manquerai pas donc de lui poser la question. J'ai lu, disais-je, qu'avec l'aide de la ville de Lausanne et de la bibliothèque Braille Romande, vous avez pu sauver 10 tonnes de papier braille qui étaient entreposés au centre pédagogique pour enfants handicapés de la vue à Lausanne. Et grâce à la collaboration de tous, vous pourrez maintenant imprimer des centaines de volumes qui permettront aux enfants du pays, donc du Burkina Faso, d'apprendre à lire et aux adultes de se cultiver et de se distraire. Comment se fait-il que 10 tonnes de papier braille étaient comme ça laissées à l'abandon à Lausanne ?
C'est-à-dire qu'à l'époque, l'imprimerie braille de l'asile des aveugles, comme on l'appelle, avait commandé un petit peu trop de papier. Je crois que le directeur de l'époque, était un type fort sympathique du reste, avait vu les choses un peu en grand, si bien qu'il est resté ces 10 tonnes de papier. Et lorsqu'on sait qu'une page braille au Burkina Faso a 4 coûte 20 centimes, et que là, il y a à peu près, je sais pas, un potentiel d'un million de pages, c'est une économie énorme. Mais comment gérer ça? Et heureusement que la commune de Lausanne et Madame Florence Germont sont venues à notre secours en mettant notre disposition un espace dans les magasins de la ville. Et maintenant, nous avons trouvé une entreprise valaisanne, comme par hasard, Schmidt Imprimerie à Sion, qui va pouvoir, dans d'excellentes conditions, nous débiter ces rouleaux de 200 kilos de papier afin qu'on puisse surtout alimenter les imprimantes braille et puis donner du papier aux écoles, non seulement du Burkina Faso, mais aussi d'autres pays d'Afrique francophone.
Jean-Marc Mera, vous avez, m'avez-vous dit tout à l'heure, votre photo dans les salles de classe de cette école du Burkina Faso qui porte votre nom. Lorsque vous y allez, comment êtes-vous accueilli ?
Alors très très bien, parce que évidemment, bon d'abord j'ai le prestige du blanc, entre guillemets, mais c'est pas ça le plus important. Je crois que j'ai pour ces gens, j'ai le prestige de l'aveugle qui, en guillemets, ce qui n'est pas tout faux quand même, a réussi à une vie autonome, à une vie professionnelle, à une vie affective. Donc c'est vrai que pour eux, je suis malgré tout un exemple. Et ma cécité par rapport à un projet tel que celui-là m'a aussi facilité la vie, ne serait-ce que pour les démarches officielles. Je vois par exemple, nous avons eu l'appui de la coopération suisse qui a visité l'école de Boulsa, c'est quand même un honneur, qui est venu conseiller la personne responsable de la comptabilité. On est vraiment suivi, et mon réseau, ma cécité, les contacts que j'ai faits sont un avantage dans ce type de pays.
Vous parlez de votre cécité, même pas comme si c'était un handicap, presque comme si c'était un avantage aujourd'hui.
Oh, c'est pas un avantage, c'est ma vie, c'est moi, comme ma canne blanche est le prolongement de ma main. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant je vis bien avec ma cécité. Je dois reconnaître que durant mon adolescence, c'était un peu plus compliqué parce que, voilà, vous savez, on agit tous par mimétisme. Donc quand on voit pas, c'est difficile de copier les autres. C'est vrai que l'époque-là était plus compliquée. Maintenant, je vis avec ma cécité comme vous, avec, je sais pas, avec vos bandes dessinées.
Par exemple, oui, c'est vrai. Il est 5h43, on va peut-être écouter un petit témoignage, car vous nous avez ramené du Burkina Faso. Vous y étiez il y a quelques mois encore, hein, quelques semaines.
Oui, je suis parti avec Michel Bondy, c'était au mois de mars. Et là, je pars en octobre avec ma femme Francine.
Vous avez une vie extraordinaire, dites-moi, tout le temps en voyage, tout le temps en mouvement, des projets extraordinaires.
Bah, il faut.
Bien. Vous nous avez ramené un petit témoignage du Burkina Faso. On va l'écouter avec la complicité d'Hervé Mermillo qui est en régie. Vous nous dites de quoi il s'agit ?
Alors, il s'agit d'un petit poème qui vous est lu, ou plutôt récité, par le petit Martin Kologo, qui est un élève d'une école pour enfants aveugles à Ouagadougou, celle-ci. Mmh.
On peut l'écouter, Hervé? Oui, alors on y va.
Poème, toi braille qui se lit par le toucher, tu es la source de notre bonheur et de notre savoir. Toi braille qui éveille nos consciences et nous intègre dans le milieu scolaire, tu es notre soleil et notre lumière. Toi qui nous fais sortir de nos cachettes et nous rend considérables par le monde entier. Tu es le vainqueur des ténèbres. Grâce à toi, ô braille, nous disons non à la mendicité, nous disons non aux préjugés, nous disons non à la marginalisation, nous disons non à la discrimination et nous disons non à l'exclusion sociale. Tes vertus sont nombreux, que tu es merveilleux, ô braille, que tu es formidable. Mes frères et sœurs, travaillons et montrons donc nos capacités intellectuelles, car on t'a toujours dit qu'on ne voit mieux qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il vous donne Adam.
Voilà, c'est très touchant.
C'est Mimi. Hein.
J'en ai la gorge nouée. Hein. Je ne l'avais pas écouté avant et j'en ai véritablement la gorge nouée.
Ah oui, c'est tellement ça. Non, la discrimination, c'est vraiment dans ce témoignage, ce poème un petit peu naïf, c'est vrai. Il y a vraiment toute cette démarche, ces enfants qui veulent vraiment s'en sortir et à qui il faut donner vraiment les moyens de s'en sortir. Et ce petit Martin Kologo qui vient de passer son année avec succès, c'est vraiment un très très beau témoignage qui résume beaucoup notre action et la volonté qu'ont ces enfants aveugles de s'en sortir et aussi, il faut dire, l'abnégation de ceux qui les aident à s'en sortir sur place.
Oui. Aujourd'hui, vous avez donc créé, après l'école, hein, vous avez fait les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire vous avez créé l'école, vous avez mis les bases et ensuite vous avez créé l'association il y a à peine quelques mois. Des gens nous écoutent ce matin. Jean-Marc Mera, que peut-on leur demander pour vous venir en aide?
Alors pour nous venir en aide, il faut surtout s'intéresser au travail qu'on fait, s'intéresser à cette cause, s'intéresser à la cause des démunis. Faut visiter notre site, faut nous poser des questions et il faut considérer surtout ces enfants comme des humains à part entière. Et je crois qu'on a besoin de se pencher sur la pauvreté dans le monde, mais pas de manière condescendante ni paternaliste, mais avec surtout pragmatisme et surtout que les gens, bien sûr s'ils veulent nous aider financièrement c'est une possibilité, c'est évident, mais si des gens ont envie de mettre à notre disposition leurs compétences, qu'elles soient informatiques, de graphisme ou autre, c'est avec le plus grand des plaisirs. Mmh. Mais c'est pas seulement une question purement financière. Nous avons mis au point un système de parrainage qui fonctionne très très bien, qui se monte à 30 francs suisses par mois et par enfant. Ça fonctionne bien. Financièrement, l'association se porte bien, sans plus, normalement. Mais évidemment, les compétences de chacun et surtout l'attention de chacun est quelque chose d'absolument fondamental.
Jean-Marc Mera, il est président de l'association ABCD pour l'alphabétisation des enfants aveugles du Burkina Faso. 5h47.
Guess you wouldn't like me at all. guess I've been fighting. Guess I've been fighting too long. Who's to be proud now? Who's to be proud now? Comes down to bringing it up. Who's to be proud now? Who's to be proud? You wouldn't like me at all. I guess I've been fighting. Guess I've been fighting too long.
Le groupe s'appelle The Loops. Guess you wouldn't like me. Il est 6h10.
Les petits matins.
Et à la demande de notre invité, Jean-Marc Mera, président de l'association ABCD pour l'alphabétisation des enfants aveugles du Burkina Faso, nous faisons sonner notre réveil matin chez Monsieur Gian Pozzi. Bonjour Gian Pozzi.
Bonjour.
Plaisir de vous retrouver. Hein. Gian Pozzi, journaliste, rédacteur. Vous avez été rédacteur en chef de 24 heures, pour ne citer que cela. Vous avez même travaillé pour la radio Suisse Romande, je crois, il y a une vingtaine d'années. Vous étiez du côté des États-Unis, je me souviens plus bien, c'est
non,
ça ?
Non, j'étais
en Italie. En Italie, mais oui. Oui, bien sûr, avec un nom comme le vôtre. Comment pourrais-je l'oublier ? Gian Pozzi, c'est donc un plaisir de vous recevoir. Un ami de Jean-Marc Mera, vous l'aidez beaucoup hein, dans ce travail de l'association ABCD pour l'alphabétisation des enfants aveugles du Burkina Faso. Je découvre Jean-Marc Mera, vous le connaissez depuis longtemps, c'est extraordinaire l'aura que dégage cet homme, l'amour qu'il a pour la vie et pour les autres.
Oui, je suis complètement fasciné parce que je ne savais pas avant de le rencontrer il y a une dizaine d'années ce que ça pouvait être que d'être aveugle, c'est-à-dire de manquer la principale dimension qui nous fait appréhender le monde extérieur. Et de réussir à vivre complètement normalement, il y a juste sa canne qui le distingue au fond. Mais pour le reste, il vit et il fait non seulement ce que tout le monde fait et sait faire, mais il en fait bien plus. Il vous a peut-être raconté tout à l'heure qu'il est quand même allé la première fois en voiture jusqu'au Burkina Faso, depuis Lausanne. Alors il était allé en camionnette avec deux copains et puis il tenait son blog tous les jours en route. Il n'y avait pas un jour, il racontait pas des anecdotes vues. Parce que, vous savez, il a une certaine tendance à dire « j'ai vu, j'ai regardé », alors que bien entendu, il ne voit rien du tout. Mais ces quatre autres sens, à part la vue qui lui manque, les quatre autres sens lui permettent d'appréhender le monde extérieur d'une manière complètement exceptionnelle.
Oui, un homme, on l'a dit, on a exploré un petit peu son parcours, donc des études de langue russe, de culture slave, des voyages en veux-tu, en voilà. Et cette extraordinaire aujourd'hui réalisation, une école pour enfants aveugles du Burkina Faso, avec sa photo dans toutes les classes. Oui. Ça m'a fait assez sourire. Vous l'avez accompagné, Gian Pozzi, au Burkina Faso,
non,
Jean-Marc Mera, pas encore.
Je n'y suis pas allé, mais je suis son blog, et puis j'ai un tout petit peu contribué quand même à trouver le nom de son association ABCD en faisant un acronyme, si vous voulez, en composant un acronyme qui ait du sens véritablement.
Mmh. Alors, dites-nous l'acronyme en question.
Oh mon Dieu.
Bon, je vais t'aider, Jeanne, peut-être.
Oui,
t'avais surtout déclenché le C, on avait buté.
Oui.
Alors
oui.
Alphabétisation au braille, c'était bon, développement c'était bon et il a fallu je crois un troisième non. Finalement tu es tombé sur conseil
voilà,
après
conseil,
un troisième
oui,
vers de San Giovese et
voilà. A B C D donc je suppose quand même Gian Pozzi vous connaissant que tôt ou tard vous accompagnerez Jean-Marc Mera au Burkina Faso.
Bah, ça serait mon
à la découverte de cette école extraordinaire.
Ça serait le plus grand plaisir, mais vous savez, il va sans doute bientôt passer à d'autres projets parce que c'est un homme entreprenant. Et on ira peut-être découvrir autre chose que cette école de Boulsa qui en ce moment qui fonctionne plutôt bien. Vous avez pu le lire sur son blog et sur son site internet. Et il est possible qu'on aille ailleurs l'année prochaine ou dans deux ans pour peut-être lancer un projet nouveau toujours en faveur des enfants aveugles.
Juste petite question, Jean-Marc Mera. C'est important lorsque l'on sait que lorsqu'on est aveugle en Europe, dans un pays développé, la vie n'est pas toujours facile. En Afrique, est-ce que c'est important l'alphabétisation, alors que même pour des personnes voyantes, les débouchés sont pas forcément faciles?
Je crois que c'est fondamental. Je crois l'alphabétisation fait partie de la vie, du développement de base. Il est impossible maintenant d'apprendre un métier, si simple soit-il, sans savoir lire. Il faut quand même pouvoir lire, ne serait-ce qu'une petite méthode d'agronomie ou ce genre de choses. Et puis, finalement, si les gens veulent lire la Bible, pourquoi pas? Je veux dire, l'accès à la culture ne doit pas être compartimenté aux pays riches. Et je crois qu'étant alphabétisés, les gens, les aveugles là-bas, seront aussi respectés. Et je crois que c'est absolument fondamental. La personne qui sait lire là-bas a un prestige bien plus élevé que chez nous.
Gian Pozzi, on va se séparer. Je vous remercie infiniment de votre témoignage. Je vous remercie aussi de vous être levé tôt pour nous rejoindre. Il va faire beau aujourd'hui. Voilà,
oui.
Ça c'est une bonne nouvelle.
Oui, merci.
À bientôt Gian Pozzi. On vous souhaite une très belle continuation.
Au revoir.
La Première présente le 37e Paléo Festival Nyon du 17 au 22 juillet, avec sous les étoiles des concerts à foison. La Première vous y donne rendez-vous au quotidien à 17h avec Jamais sans mon loukoum, à 19h dans Paradiso. Et quand vous le voulez, avec une sélection de titres et de concerts, en audio ou en vidéo, à vivre en direct, à redécouvrir ou à télécharger via notre page spéciale.